Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 57. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Pour la plupart des gens, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une petite folie, surtout si vous avez un job salarié stable, pourquoi prendre un tel risque? Oui, mais pour la plupart des entrepreneurs, c'est de ne pas se lancer qui aurait été une folie. Aujourd'hui, je reçois Alexis Minchella, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement au travers de son podcast « Tribu Indé », dans lequel il dissèque la vie des freelances dans toutes ses composantes. Alexis vient également de sortir son premier livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, je dis premier, parce que je ne serais pas étonnée de le voir en publier bien d'autres dans le futur. Ce premier livre donc vient de sortir et c'est un raz de marée. Il a littéralement trusté le podium d'Amazon et se retrouve devant des best-sellers du business, comme La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et ça, c'est pas rien. Dans son livre, Alexis nous explique comment bien vivre son statut de freelance. Il aborde notamment un sujet qui touche ou a touché tous les entrepreneurs, il s'agit de la peur de se lancer. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, tendez l'oreille, il nous donne plein d'excellents conseils pour dépasser nos peurs. Pas besoin de vous jeter sur un bloc-notes, je vous ai tout résumé dans le cadeau bonus du jour. Pour le télécharger comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/cadeau57. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Alexis Minchella. Alors bonjour Alexis, bienvenue sur le podcast du marketing. Je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, d'autant qu'il se passe pas mal de choses dans ta vie en ce moment. C'est pas que pour ça que je t'accueille, mais effectivement c'est une semaine un peu particulière. Il y a plein de gens qui écoutent ce podcast qui à mon avis te connaissent déjà bien sûr du fait de ton podcast. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Merci déjà Estelle pour l'invitation. Moi, je m'appelle Alexis et je suis le créateur effectivement d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, dont l'objectif est de permettre à n'importe quel indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, je décortique à la fois les stratégies, les clés de succès et puis aussi parfois les échecs parce que ça arrive. D'autres freelances et indépendants qui sont plus expérimentés que moi ou d'autres auditeurs. Et tout ça chaque semaine, tous les mercredis. Et donc j'alterne entre des formats, un petit peu des formats longs sur des interviews qui durent entre une heure et demie, et puis des formats un peu plus courts où je prends un peu plus la parole, où je partage un peu plus mon expérience en tant qu'indépendant, parce que je suis moi-même freelance en copywriting pour des entreprises B2B. C'est ce que je fais et c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui. Et puis effectivement, je suis maintenant l'auteur d'un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, aux éditions Erol, qui est toujours dans le prolongement de ce que je peux faire avec Tribu Indé, à la fois sur le podcast, la newsletter et puis ailleurs, qui a pour objectif d'aider n'importe quel freelance, n'importe quel indépendant à construire leurs offres, à sortir du lot, à trouver des clients qui leur ressemblent, et puis apprendre à se vendre aussi quand on a peur de se vendre, et puis surtout bien gagner sa vie en freelance, parce que ça reste le carburant de n'importe quel business de générer des clients et de générer de l'argent avec son activité.
Génial. Et livre qui se vend très très bien, donc qui est sorti là il y a quelques jours à la date à laquelle on enregistre ce podcast et qui marche super super bien, donc on te souhaite que ça continue comme ça, mais j'ai pas trop de doutes. Le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, justement on va parler du fait d'être indépendant. Et puis du fait de travailler en tant qu'indépendant. Mais avant de travailler en tant qu'indépendant, bah, il y a le moment où on passe, où on devient indépendant. Et bien souvent, il y a des peurs qui viennent avec le fait de se dire est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas. Et on va parler de ça, on va parler de la peur de l'indépendant. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, tu as vraiment regardé le sujet en détail, est-ce que tu pourrais nous dire ce que toi t'en penses et tu nous dis la peur fait partie de l'aventure. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
En fait, c'est assez dingue, notamment quand tu te lances en tant qu'indépendant, tu te lances dans une nouvelle aventure et tu te lances souvent sur quelque chose que soit on t'a jamais appris à l'école, c'est pas quelque chose dont le monde de l'entreprise te prépare. Et donc, tu vois, c'est parfois on se dit ok, mais en fait, si j'ai peur, c'est que je suis pas bien préparé, c'est que j'ai pas mis en place les bonnes choses pour me lancer. Alors que moi, je considère plutôt que en fait, il faut accepter aussi d'avoir peur et il faut savoir plutôt comment est-ce que je peux maîtriser ces peurs-là et en faire plutôt des forces plutôt que des obstacles et des choses qui me ralentissent dans ma progression. Parce que, en fait, tu vois, moi, il y a 4-5 ans, j'étais encore étudiant. Tu vois, il y a 4-5 ans, jamais j'aurais pu prévoir qu'on serait en train d'enregistrer ensemble un podcast, que j'aurais créé un podcast qui fait des milliers d'écoutes aujourd'hui, et puis surtout que j'aurais écrit un livre, en fait.
Ouais, c'est fou.
Et en fait, c'est, tu vois, c'était impossible à prévoir. Même si, ouais, même si on m'aurait raconté ça, si tu veux, j'aurais dit oui, ok, t'étais bien gentil, mais en fait, c'est dans 4 ans, 4 ans, c'est demain. Et en fait, on se rend pas compte le pouvoir de certaines décisions. Et moi, typiquement, le fait d'avoir quitté ma boîte, je bossais pour une plateforme de freelance, le fait de m'être vraiment lancé à mon compte, ça a été une décision qui était hyper difficile à prendre parce que, en fait, dans ton entourage, dans tes amis, la plupart de mes amis, si je mets de côté d'autres indépendants et d'autres entrepreneurs, la plupart sont en fait salariés, évoluent de manière régulière, deviennent managers, managent des équipes, etc. Et donc toi, en fait, t'es en train de prendre le contre-pied de ça en leur disant, en fait, je mets un peu un stop à ma carrière dans le monde de l'entreprise pour me lancer et de repartir presque à zéro. Et donc tu vois, c'est une décision qui est assez difficile à prendre et qui peut faire, en fait, et qui peut faire carrément flipper, quoi. Te dire, est-ce que je suis pas en train de me planter et, en fait, de balayer tout ce que j'ai construit depuis quelques années. Et pourtant, tu vois, ça a été presque la meilleure décision de ma vie professionnelle, de me dire, je me lance, j'ai le temps de lancer d'autres projets, j'ai le temps aussi d'apprendre à me connaître, de me tester, et puis de te vendre toi-même. C'est un sentiment qui je trouve assez dingue. Tu vois, moi, je me souviens de mes premières factures, c'est difficilement descriptif, quoi. C'est assez fou de te dire, t'es plus dans un cadre entreprise, il y a plus de manager, t'es tout seul ou toute seule à te vendre, à proposer tes compétences. Et ça a été pour moi, ouais, la meilleure décision de ma vie. Et si j'avais pas affronté ces peurs-là, en fait, j'aurais repoussé encore et encore et tu vois, j'aurais eu 30, 35, 40 ans et je me serais toujours pas lancé, en fait. Et j'aurais continué d'être frustré dans le monde du salariat dans lequel j'étais moi. Alors, ça veut pas dire que le monde du freelancing est meilleur que le monde du salariat. Il y a pas d'opposition nécessaire à avoir. Mais tu vois, en fait, t'avais deux choix. Soit tu restes dans quelque chose où t'as un peu de frustration, où t'es pas forcément content de te lever le matin pour aller bosser, où tu vois, t'emmagasines un peu de questionnement, tu te dis ça me va pas, mais je sais pas quoi faire. Ou alors tu te dis ok, il y a un moment où il faut prendre une décision et surtout comment tu te prépares pour appuyer cette décision-là, te lancer réellement. Et je trouve que les peurs font effectivement partie du chemin.
Je suis complètement d'accord avec toi et moi c'est quelque chose que je dis assez souvent, enfin pas depuis si longtemps que ça finalement, mais que j'ai réalisé et qui vraiment m'accompagne maintenant, c'est de me dire quand j'ai une décision à prendre, s'il y a une des solutions qui me fait un peu peur, je vais la regarder avec un peu plus d'attention, parce que bien souvent quand ça fait peur, c'est parce que tu sors de ta zone de confort, tu sors de voilà de ce que tu fais au quotidien et c'est quand tu sors de ta zone de confort que t'évolues. C'est aussi bête que ça, c'est que si tu restes toujours dans ta zone de confort, ça peut être très bien, hein. Il y a plein de gens qui font ça, qui se sentent bien là-dedans, il n'y a pas de souci. N'empêche que tu continues à faire toujours la même chose et donc ton évolution, elle va être assez flat. Là où si tu sors de ta zone de confort, certes peut-être il y a des risques, mais c'est là que les choses vont potentiellement bouger. Donc moi, si j'ai peur, je me dis plutôt signal positif. Attention, hein, l'idée c'est pas de foncer la tête droit dans le mur, hein, mais je me dis plutôt signal positif, regardons-le avec un peu plus d'attention.
Mais tu sais, je vais te confier quelque chose. Moi, les moments où j'ai appris le plus, c'était les moments où en fait je savais pas faire les choses et beaucoup de mes missions clients, beaucoup de missions que je continue de prendre aujourd'hui, je maîtrise pas 100% du scope, du périmètre qu'on me propose. je dirais que tu vois, t'en maîtrises 60% et en fait, tu as les 40% que tu vas aller chercher, où en fait, tu vas te mettre dans une position, tu vas sortir effectivement de ta zone de confort, tu vas te questionner et dans tous les cas, tu vois, tu vas devoir trouver une solution. T'as pas le choix. Si tu veux que ton client soit satisfait, que tu avances sur tel ou tel projet, etc., il faut que tu te lances. Moi, tu vois, avant de lancer le podcast, moi, je suis pas journaliste, j'ai pas fait d'études sur le son, etc. J'ai appris un peu sur le tas. C'est-à-dire que quand j'ai appelé mon premier invité en lui disant, voilà, je voudrais faire un podcast, je sais pas encore trop long que ça va prendre, mais est-ce que t'es disponible? Est-ce qu'on peut booker une date? À ce moment-là, si tu veux, j'avais même pas encore acheté les micros, quoi. Je savais même pas comment est-ce que j'allais enregistrer tout ça. Mais en fait, là aussi, le fait, on pourra peut-être en parler, mais le fait de te mettre une date un peu butoir t'oblige et te force à avancer plus vite que si tu disais, voilà, j'attends d'être 100% prêt avant de me lancer. En fait, ce 100% prêt, il arrive jamais. Quoi que tu fasses, quel que soit t'as beau te former pendant des années, il y aura toujours des choses, il y a toujours, tu vois, une divergence entre ce que tu apprends, ce que tu penses savoir, etc., et puis ce que tu maîtrises et ce que tu connais réellement du monde réel, opérationnel, quand t'es notamment indépendant.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, en fait, bah, quand on est entrepreneur, qu'on soit freelance, indépendant ou dans une grosse boîte, peu importe, mais quand on est entrepreneur, nécessairement, on doit apprendre à vivre avec cette peur, parce que, ou en tout cas avec cette nouveauté, cette peur de l'inconnu, parce que ça fait partie du job, tout simplement. C'est qu'on va toujours avoir des choses qu'on va pas maîtriser parfaitement, et c'est ça qui va nous faire avancer. Donc c'est vraiment un sujet important à comprendre, à appréhender et être à l'aise, même si c'est pas toujours facile d'aller vers sa peur, hein, mais en tout cas être à l'aise de se dire, bah ok, j'ai peur, c'est pas grave, et j'y vais. Dans ton livre, tu nous parles justement de... Tu commences d'ailleurs ton livre avec cette D'accord. gestion de la peur, comme quoi c'est vraiment un step important dans le fait d'être entrepreneur ou d'être à son compte. Tu nous parles de 4-5 grandes peurs. Est-ce que tu peux... La première à laquelle je pensais, c'était la peur de... Et je pense que c'est le cas pour plein de gens. La peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça veut dire quoi?
Ouais, bien sûr. Mais tu vois, en fait, moi, je l'ai vraiment ressenti et du coup, ça me touchait vraiment et j'avais vraiment à cœur de parler de ça dès le démarrage, parce que, en fait, c'est généralement les premières peurs, c'est généralement ce qui te bloque à passer à l'étape supérieure, à mettre un pas après l'autre et en fait de te lancer vraiment dans l'aventure. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté pour vraiment l'avoir ça dès le premier chapitre. Et toutes les peurs dont je parle, c'est pour le coup des peurs que j'ai vraiment vécues. Je sais pas si tu l'as ressenti, en tout cas la lecture de ce que tu as pu lire sur le premier chapitre, mais tu vois, c'est vraiment c'est des sujets qui me parlent parce que je me suis beaucoup questionné là-dessus. Et effectivement, tu vois, quand tu te lances, t'as une sorte de grosse angoisse, quoi. Tu te dis, mais attends, en fait, je suis qui? Moi, quand je me suis lancé, j'avais 24-25 ans. En fait, je suis qui pour aller vendre mes prestations à des entreprises, à facturer plusieurs milliers d'euros, alors qu'en fait, j'ai pas 15 ans d'expérience. Tu vois, je connais pas toutes les méthodes de travail, etc. Et en fait, tu vois, en discutant avec beaucoup de freelance en dehors du podcast, mais aussi grâce au podcast Tribu Indé, je me suis rendu compte que, en fait, on avait tous cette peur, en tout cas au démarrage, de pas forcément être à la hauteur, de se dire qu'on va pas y arriver et que personne va nous faire confiance. Et tu vois, je suis tombé sur une statistique qui est assez intéressante, de se dire, sur le syndrome de l'imposteur, tout le monde le connaît. Mais tu vois, moi, je n'étais pas au courant qu'il y a plus de 70% des personnes qui le ressentiront au moins une fois dans leur vie.
Ouais. J'ai découvert ça aussi, c'est fou, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un élément, souvent quand on le ressent, on a l'impression d'être seul au monde à se sentir comme ça, et en fait c'est un truc extrêmement humain, quoi. On est tous, quasi tous, sujets au syndrome de l'imposteur, donc c'est pareil, on a le droit de le recevoir sereinement, finalement.
Exactement, et tu vois, en fait, c'est ok de dire que tout le monde doute de ce qu'il est capable de faire ou d'accomplir, et c'est ok en fait d'avoir le syndrome de l'imposteur. Et moi, je prends un peu une approche un peu contre-intuitive là-dessus, où généralement on te dit, voilà, comment est-ce que tu peux affronter ce syndrome de l'imposteur, comment est-ce que tu peux le combattre, etc. Moi, je prends un peu le contre-pied de me dire, en fait, il faut aussi assumer parfois que oui, en fait, on est un imposteur. Oui, quand j'ai lancé le podcast, j'étais un imposteur parce que j'étais pas un podcasteur professionnel. Oui, quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais pas un auteur professionnel, et donc en fait c'est ok. Donc plutôt que de, tu vois, à tout prix essayer de lutter contre ce syndrome, de se dire qu'en fait on est les meilleurs, etc., je pense qu'il faut, c'est une question de posture, et de se dire, ok, ben en fait je suis pas le seul et je serai jamais le seul dans ce cas-là, sauf que peu de gens en parlent, mais je sais que certains et beaucoup vont avoir ce syndrome de l'imposteur là. J'assume ça. Et d'ailleurs, dans le livre, effectivement, tu vois, je prends volontairement des exemples un peu extrêmes de superstars dans différents domaines pour montrer qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux gens lambda comme toi et moi, tu vois.
Je prenais souvent l'exemple de. Ouais, vas-y, j'allais t'en parler parce que moi j'ai trouvé ça fou, hein. Je savais pas, tu parles de Serena Williams notamment.
Exactement, et d'ailleurs je te conseille le documentaire sur Netflix qui retrace une de ses dernières années vraiment au niveau. Et en fait elle a pendant très très longtemps elle a copié sa sœur en fait. Elle a copié sa sœur Vénus pour essayer de faire la même chose parce que elle se sentait pas, elle savait pas vraiment ce qu'elle faisait, elle se sentait pas à sa place. Il y avait aussi le regard de sa sœur. Tu vois, tu te juges en permanence. Je parle aussi de Howard Schultz qui était pendant, qui l'est plus mais qui a été pendant quasiment plus de 20 ans le PDG de Starbucks. Mm-hmm. Tu vois, ça a été son premier grand rôle dans le monde de l'entreprise. Tu vois, c'était la première fois qu'il était PDG. Bien sûr, personne et rien ne le préparait à être PDG d'une boîte qui pèse plusieurs milliards dans le monde, tu vois.
Et en fait, c'est ça, quoi.
Exactement. Et en fait, c'est ça c'est vraiment pour appuyer le fait que le syndrome de l'imposteur et le fait de pas être à l'auteur, ça touche tout le monde, quoi. C'est pas parce que t'arrives à un haut niveau, que ça soit dans le monde professionnel, dans le monde artistique, dans le monde sportif, que tu n'es pas toujours en train de douter. Sauf qu'effectivement, ça, c'est toujours la face cachée dont personne parle vraiment, mais qui existe pourtant. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai volontairement, et c'est d'ailleurs la seule fois où je prends un peu des superstars dans le livre pour volontairement montrer que ça n'arrive pas qu'à des gens comme vous et moi qui sont plutôt lambda par rapport à des Maya Angelou et des Lady Gaga qui sont aujourd'hui des superstars mondiales, quoi.
Ouais, non, mais tu vois, je pense que t'as vraiment bien fait de le faire. Moi, ça m'a marqué quand je l'ai lu. Et pourtant, tu vois, je me suis pas mal documentée sur le syndrome de l'imposteur. J'avais fait un épisode sur le podcast du marketing là-dessus. Et j'avais pas en tête quand même ces émois. C'est-à-dire que quand j'ai lu Serena Williams, Lady Gaga, tu te dis, mais sérieusement, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des reines, tu vois. Je sais pas, tu penses Serena Williams, tu te dis, mais c'est pas, voilà, c'est des monstres sacrés dans leur domaine. Et quand même, malgré tout ça, elle ressent ce syndrome de l'imposteur. Et je trouve que c'est extrêmement apaisant de lire ça, parce que d'un coup, tu regardes ta petite personne un petit peu plus sereinement en disant « Attends, ça va.
Exactement.
Si Lady Gaga flippe, j'ai le droit de flipper aussi. »
Et d'ailleurs, les citations que je cite sont vraiment... Enfin, c'est pas des citations que j'ai inventées. C'est vraiment... Par exemple, pour Lady Gaga et Serena Williams, c'est extrait de leurs deux documentaires qui sont sur Netflix. Maya Angelou, c'est une auteure que j'aime beaucoup et j'avais lu un certain nombre d'avis dans lesquels j'étais tombé dessus. Et puis sur Howard Schultz, c'était sur un documentaire sur Starbucks aussi où il en parlait. Donc, c'est vraiment des choses qui sortent de leur bouche, quoi. Et ça, c'est assez dingue. Et en fait, je fais aussi le parallèle, tu vois. Quand par exemple, tu cherches un job... Quand tu postules, par exemple, à un CDI ou un CDD, ou voire même un stage quand t'es étudiant, en fait, tu te poses pas vraiment la question de est-ce que t'es à la hauteur ou pas. En fait, tu vas répondre à une annonce de job, tu vas mettre ton CV, ta lettre de motivation, et puis tu vas essayer de passer les étapes les unes après les autres, l'étape de qualification, les premiers appels, et puis tu vas avancer dans le processus. Mais je trouve que tu te poses beaucoup moins la question quand tu recherches un emploi de savoir si t'es à la hauteur ou pas, versus que, par exemple, tu te lances dans l'indépendance, alors que si tu prends un pas de recul là-dessus, c'est un petit peu le même process. Alors bien sûr, t'es pas en train de postuler à une offre, etc. Mais si tu veux, c'est un peu la même idée. C'est que tu vas essayer de convaincre ton interlocuteur, ton client, que t'es la bonne personne pour l'aider. Et donc en fait, t'es dans le même schéma t'es dans le même processus de travail et de réflexion que quand tu cherches un job en CDI. Et donc c'est intéressant de voir que quand il n'y a plus de carcan, quand il n'y a plus de route bien tracée, en fait, tu doutes encore plus que quand tu es dans le monde un peu plus classique où tu réponds à des annonces et que tu as moins le temps de te poser la question de « Ah, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour postuler, etc. ?» Tu te poses beaucoup moins cette question-là, en fait.
Ouais, c'est sûr. Et alors, justement, tu parles de quand on postule pour un job ou quand on cherche ses clients, il y a une peur qui est ultra répandue au sein des indépendants ou des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est la peur de justement pas en trouver de clients. Et toi, c'est quelque chose que tu as ressenti, également.
Mais bien sûr, parce que, alors moi, j'ai fait de l'école de commerce, mais je suis pas un commercial dans l'âme. Si tu veux, j'ai pas d'expérience de commercial, j'ai pas vendu de logiciel. Moi, je suis un marketeur un peu pure souche, quoi. C'est-à-dire que Alors bien sûr, il y a une part de commercial, mais j'ai pas l'âme d'un commercial à aller tchatcher tout le monde, aller dans les événements, à distribuer les cartes de visite, etc. Et donc, encore une fois, bah là, en fait, t'appréhendes quelque chose que tu ne connais pas, qui est comment est-ce que tu vas convaincre des clients d'acheter tes services, comment est-ce que tu vas nouer une relation de confiance avec eux, etc. Et en fait, pareil, si tu vois le sujet de je vais jamais réussir à trouver mes clients, etc., tu as l'impression d'être face à une montagne, c'est-à-dire... Ok, il va me falloir 15 clients d'un coup pour bien gagner ma vie, etc. Je vais jamais y arriver. Et en fait, tu vois, tu te noies un peu dans un verre d'eau parce que tu décomposes pas le sujet. Et si par exemple tu te dis, bah en fait, là j'ai un mois, donc j'ai 4 semaines, j'ai 20 jours pour aller chercher au moins un client, d'aller convaincre un client de travailler avec moi. Eh bien, le premier mois, tu auras un client. Et puis le deuxième mois, tu vas répéter la situation et tu vas essayer d'aller chercher un autre client. Et donc à la fin du deuxième mois, tu auras 2 clients. En fait, tu vois, ça peut être progressif. Tout va pas arriver du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu vas pas te lancer un lundi et puis le mardi, tu auras ton emploi du temps qui va être complètement booké. Tu vas avoir 20 clients, tu en as 20 autres qui sont en train de faire la queue pour travailler avec toi. Et donc en fait, quand tu décomposes les choses et tu dis, bah, aller chercher un client, tu as 20 jours pour aller trouver un client. Je trouve que tout de suite, tu vois, la tâche, elle est beaucoup moins ambitieuse, ouais. Elle est beaucoup moins challengeante que de te dire, OK, il va me falloir 10 clients en même temps, ça va être compliqué, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et à l'inverse aussi, c'est que l'avantage côté freelance, c'est que tu as très, très peu de coûts de structure. Donc, mis à part ton matériel, quelques logiciels, etc., tu vois, en théorie, tu as un cash flow positif dès ta première mission.
Ouais. Tu as un ordinateur et c'est bon.
Exactement. Et donc, en fait, là-dessus aussi, t'es moins dans une logique entrepreneuriale / start-up / entreprise qui a des coûts de structure, qui a des employés, etc. Et donc, en fait, t'as pas forcément besoin d'avoir 40 clients par an pour bien vivre de ton activité. Moi, tu vois, j'ai jamais eu plus de 3-4 clients en parallèle en même temps et ça m'a jamais empêché de bien vivre. Donc, en fait, tu vois que, pareil, 3-4 clients en même temps, c'est pas insurmontable quand t'as 4, 5, 6 mois de freelancing dans les pattes. Bien sûr, encore une fois, ça arrive pas tout de suite, mais progressivement, tu rajoutes un client à ton portefeuille et en fait ça marche comme ça. Donc là l'idée c'est de, pour débunker un peu cette peur là, c'est de te dire comment est-ce que je peux redécouper en micro tâches et me dire ok, un client déjà c'est un premier challenge, je me donne 20 jours pour y arriver et ensuite il y a plein de questions de ok, comment je vais les trouver, quels sont les leviers que je vais pouvoir utiliser, mais ça fait beaucoup moins peur que de te dire il me faut 20 clients par mois par exemple.
Ouais, c'est un peu le principe, moi j'appelle ça la stratégie des petits pas, c'est-à-dire c'est quand tu es en bas de la montagne, tu regardes le sommet, tu dis bon bah c'est bon, c'est pas la peine, j'y arriverai jamais, et si tu regardes comment faire 5 pas devant toi, bah 5 pas devant toi réellement c'est faisable, il y a pas de le challenge est réalisable, donc tu peux y aller, puis tu refais les 5 pas et tu arrives à terme en haut de la montagne. Donc c'est un peu ce concept là, sauf que ce que tu disais effectivement, c'est que tu as pas besoin d'avoir beaucoup de clients. Toi tu dis tu en as 3 4 5 ça suffit. Quand on préparait cet épisode, tu me disais que toi, t'avais eu au tout début, même si tu te sens pas commercial dans l'âme, t'avais eu une stratégie particulière pour trouver tes premiers clients. Tu peux nous en dire deux mots?
Ouais, moi en fait j'ai commencé. C'est intéressant parce que on peut croire avec ce qu'on voit de moi sur internet aujourd'hui que j'ai toujours créé beaucoup de contenu avec Tribu 1D notamment. Moi, quand je me suis lancé, les 3 premiers mois où je me suis vraiment lancé à temps plein, où je me suis dit ok, j'en fais mon revenu principal sur 90 jours parce que je fonctionne en plan de 90 jours, mm-hmm. Et c'est mes méthodes d'organisation. Je m'étais dit sur les 90 premiers jours, je veux retrouver au moins le salaire que j'avais lorsque j'étais salarié.
Ah,
et donc
wow,
à ce moment-là, ouais, c'était vraiment et en fait c'était le seul objectif, c'est-à-dire que tout mon emploi du temps, mes actions, mes tâches, mon organisation étaient focalisées sur l'atteinte de cet objectif-là. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux gagner rapidement le salaire que j'avais à l'époque? Et je me suis dit, créer du contenu, c'est quelque chose que je sais faire, c'est quelque chose que je connais, que je teste déjà depuis des années. Mais c'est pas la méthode la plus rapide, en tout cas, pour aller chercher des clients. Et donc, les tâches prioritaires que je me suis donné, c'était de réactiver mon réseau. Et donc là, il y a un certain nombre de sujets, de la manière dont comment est-ce que tu vas réactiver ton réseau. Je parle notamment dans le livre d'une, ce que moi j'appelle la matrice pouvoir proximité, d'essayer de cartographier ton réseau sur deux gros sujets qui sont le pouvoir de décision par rapport à ton client cible, à ce que tu peux proposer, aux problématiques que tu adresses, etc. Et puis la proximité, c'est-à-dire à quel point tu te sens proche de ces personnes-là pour leur demander soit des introductions, soit de les réactiver pour engager la discussion, etc., etc. Et donc ça, tu vois, globalement, mes 3-4 premiers clients, je les ai trouvés via mon réseau, ou en tout cas, mon réseau élargi. J'ai été chercher des introductions à droite à gauche. Et puis, en fait, j'ai fait aussi un petit peu de prospection. Même si, tu vois, je suis pas un commercial, en fait, tout le monde est capable d'écrire un bon mail qui en tout cas attire la curiosité et conduit vers un call. Je suis pas en train de, tu vois, sur un mail par exemple ou un message LinkedIn, je suis pas en train tout de suite de vendre mes services et de dire ok, est-ce que tu veux signer, je t'envoie mon devis et puis tu le signes, mais plutôt de dire ok, comment est-ce que je fais pour attirer l'attention, pour éveiller la curiosité de mon interlocuteur à tel point que derrière en fait le seul objectif c'est d'aller récupérer un call, discuter avec cette personne-là et de voir s'il y a potentiellement des choses, des synergies qu'on peut créer ensemble. Et donc ça, je l'ai notamment fait quand j'avais des entreprises bien précises en tête que je voulais cibler et surtout avec lesquelles je voulais travailler parce que c'est des entreprises que je connaissais où je sentais qu'il y avait des choses qui pouvaient être corrigées ou améliorées. Et donc là, tu vois, plutôt que de créer du contenu et me dire j'espère que ces personnes-là vont tomber sur mon contenu, bah, j'étais un peu plus proactif parce que je m'étais fixé, tu vois, cet objectif-là de 3 mois et que le contenu est un objectif un peu plus long terme, tu vois, qui met un peu plus de temps à décoller. En termes de crédibilité, le fait d'être régulier, d'être de plus en plus visible. Donc tu vois, moi, il y a vraiment les deux sujets qui ont été comment est-ce que j'évalue mon réseau et je le cartographie, et puis comment est-ce que je vais aller chercher 2-3 clients bien spécifiques que j'ai ciblés, qui vont me permettre, si je signe avec ces clients-là, bah, de doper ma crédibilité, d'aller chercher de nouvelles missions parce que ces entreprises qui étaient bien implantées dans leur secteur, qui étaient assez visibles, etc. Donc, voilà un petit peu comment, en fait, en 3 mois, tu vois, j'ai récupéré le niveau de vie que j'avais lorsque j'étais salarié.
Ouais,
c'est qu'une fois, c'est une fois seulement après que tu vois Tribuindé, le podcast, il a été créé en mois d'avril 2019. Ouais. Et donc, en fait, tu vois, il s'est vraiment créé après ce plan de 90 jours. Alors, bien sûr, j'étais freelance depuis 2017, donc j'avais déjà un peu de bagage. C'est pour ça aussi que j'avais cet objectif un peu ambitieux de me dire, OK, je veux retrouver mon niveau actuel. Mais tu vois, c'est pas impossible en 3 mois d'aller chercher de nouvelles missions.
Ouais, je trouve ça assez impressionnant, moi, pour le coup, en 3 mois, de réussir à retrouver son salaire, tu vois, de salarié. Mmh. Je trouve que c'est une belle perf. Mais en même temps, ce que tu décris est vraiment très, très logique. C'est-à-dire que même si tu le dis, toi, t'aimes pas, t'es pas forcément un vendeur né. Moi, je suis exactement dans ton cas. Vraiment, c'est pas mon truc. Mais même si t'es pas vendeur, il y a quand même des choses qu'on peut faire assez naturellement. Et finalement, tu faisais le parallèle avec le fait de rechercher un emploi. C'est effectivement le même parallèle. C'est-à-dire que des lettres de motivation, bah, tu fais une lettre de motivation quand tu réponds à une offre d'emploi potentiellement, mais tu peux aussi faire une lettre de motivation à quelqu'un qui n'a jamais rien demandé en lui disant, ben voilà, vous avez une boîte, moi, qui me plaît, j'ai envie de bosser pour vous. Ben, c'est exactement le même raisonnement que tu fais quand tu vas chercher effectivement des clients de façon ultra spontanée. Mais si tu leur expliques pourquoi est-ce que tu veux bosser avec eux et pourquoi ces personnes ont intérêt à bosser avec toi, nécessairement, ça peut être relativement naturel finalement. Il faut un petit peu se pousser, mais ça peut être relativement naturel. Après, tu vois, moi, je suis vraiment de ces personnes qui aiment pas ça, qui aiment pas avoir à aller chercher, qui aiment pas, je sais pas, ça m'est pas naturel. C'est pareil, je suis comme toi, rationnellement, je sais que c'est faisable. Il n'y a pas de montagne, mais c'est pas ça me déplaît. En fait, c'est même pas que ça me plaît pas, c'est que ça me déplaît. Du coup, moi, j'ai pas mal travaillé sur comment est-ce qu'on pouvait faire pour faire venir nos clients à nous. Et je pense que ça, c'est assez complémentaire d'ailleurs. Hein. Je pense que tu as raison. Si on veut démarrer assez rapidement, il faut commencer par aller chercher des clients et le faire de façon intelligente. Mais sur le moyen long terme, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à faire pour ne pas avoir à passer son temps à aller chercher et se focaliser plus sur son métier. Moi, c'est ce que je préfère faire personnellement. J'en profite pour passer un tout petit message parce que ça va avec le thème. Je vais donner une formation qui est complètement gratuite, qui est pile sur ce sujet, d'ici quelques jours, semaines. La date n'est pas encore tout à fait arrêtée. Les inscriptions ne sont pas tout à fait ouvertes non plus. Ce sera dans quelques jours, donc c'est en construction tout ça. Mais c'est vraiment sur le sujet, c'est-à-dire que je suis allée, parce que j'ai plein de gens, plein d'indépendants qui sont venus me voir en me disant ce dont j'ai besoin, c'est de nouveaux clients. Et je sais pas où les trouver, j'aime pas ça, ça m'angoisse, ça m'empêche de dormir la nuit parce que je sais pas comment faire. Et il y a, comme tu le dis, plein de façons d'en trouver en allant les chercher, mais il y a aussi plein de façons de les faire venir à soi. Donc moi j'ai construit une formation là-dessus, c'est-à-dire que j'ai mis ensemble 3 stratégies digitales qui sont indispensables à mon avis pour les indépendants et qui ont pour but d'attirer les clients sans qu'on ait à les démarcher. Donc bah, si ça vous intéresse, comme je disais, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais ça ne saurait tarder. Mais vous pouvez vous préinscrire, comme ça je vous enverrai un mail dès que ça s'ouvre. Je pense que la formation aura lieu a priori tout début février. Et si vous voulez vous préinscrire pour que je vous envoie un mail, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/gratuit. Donc voilà, j'ai fait mon petit auto-promo. J'en profite parce que tu parlais du sujet, mais effectivement, je pense que le fait d'avoir peur de ne pas avoir de clients, c'est vraiment un des sujets qui revient le plus. Et peut-être à tort finalement, parce que c'est pas forcément si complexe que ça une fois qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se penche sur le sujet. Il y a une troisième peur, je trouvais extrêmement intéressante dans ce que tu disais, dans ton livre, c'est la peur de faire le mauvais choix en se lançant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as retrouvé auprès de beaucoup de freelance, d'indépendants, de se planter en fait, de se dire mince, c'est pas ça, j'aurais pas dû y aller.
Mais oui, parce que même si, tu vois, aujourd'hui on dit le freelancing, c'est une révolution, c'est le futur du travail, etc. C'est... En vrai, aujourd'hui, tu vois, dire que tu es freelance, c'est un truc un peu hype, c'est un peu sexy, quoi. C'est un peu cool parce que t'as l'impression que t'es à contre-courant, etc. La réalité, c'est que ça, déjà, un, ça n'a pas toujours été le cas. Deux, c'est pas non plus une révolution telle que, en fait, ça va complètement bouleverser que tout le monde demain sera freelance. Mais la réalité, c'est que même si c'est de plus en plus accepté dans la société, que les entreprises ont l'habitude de plus en plus de travailler avec des freelances, si tu veux, dans ton entourage, dans ton cercle d'amis, de relations, etc., c'est pas encore un truc, tu vois, c'est quand même un truc qui est vu comme quelque chose de risqué, etc. Et donc, en fait, t'as forcément, à la manière d'un entrepreneur qui va essayer de lancer sa boîte, bah, t'as peur de rater, quoi. Et en fait, de rater, ça envoie un mauvais signal aussi, un mauvais signal social de dire, bah, en fait, ouais, il a raté parce qu'il a fait le mauvais choix, qu'il était pas prêt, qu'il aurait pas dû faire ça, et qu'en fait, il aurait dû rester là où il était, etc. Donc, en fait, tu vois, tu projettes déjà un potentiel échec dans le fait de faire un mauvais choix. La réalité, c'est que, si tu veux de dire bah, telle expérience ou tel projet a été un bon choix ou un mauvais choix, c'est toujours une réflexion que tu peux avoir finalement qu'à posteriori. C'est-à-dire que tu peux jamais, avant de te lancer, par exemple, je sais pas, avant de lancer le podcast, j'étais incapable de dire si je faisais le bon choix ou le mauvais choix. C'était un choix que j'avais envie de faire, en tout cas. J'étais convaincu que ça allait m'apporter quelque chose. De là à dire si c'était un mauvais choix, un bon choix, en fait, je peux te dire aujourd'hui, 2 ans après, que c'était un très bon choix. Mais,
d'accord. Mais,
en fait, c'est comme un lancement en freelance. C'est-à-dire que oui, ce serait un mauvais choix si tu considères que tu as raté, que tu n'en as pas tiré de la valeur, etc. Mais la réalité, c'est que quel que soit l'échec, quel que soit le projet un peu raté que tu fais, il y aura toujours des, tu vois, t'as toujours quelque chose à apprendre, t'as toujours quelque chose à en tirer. Et donc, en fait, ce truc de faire le mauvais choix, c'est le mauvais choix par rapport à quoi? Est-ce que c'est un mauvais choix parce que t'as pas réussi à gagner suffisamment bien ta vie? Est-ce que c'est parce que t'as envoyé valser tout ce que t'avais créé quand t'étais salarié? Est-ce que, tu vois, en fait, c'est hyper subjectif, et la réalité, c'est que t'as jamais vraiment de mauvais choix. Bien sûr que, tu vois, être freelance, c'est quelque chose quand même d'inconfortable au démarrage, qu'il y a plein d'inconnus dont on a déjà parlé, etc. Mais en fait, derrière, enfin, moi, je vois que le positif. Alors, est-ce que j'ai le biais aussi, un peu le biais du survivant, notamment avec le podcast, d'avoir interrogé que des freelances qui aujourd'hui sont extrêmement contents de leur situation? Sûrement que je l'ai un petit peu, et on entend peut-être pas assez des freelances qui échouent. Mais en tout cas, enfin, même quand les choses se passent pas comme tu l'avais prévu, comme quand il y a un peu quelques inconnus, quand il y a des choses qui vont pas forcément comme tu l'entends, c'est toujours, tu vois, il y a toujours du positif, il y a toujours du bon à prendre. Et moi, je me dis, même si au bout d'un an, je m'étais dit que je me suis lancé à temps plein, je me donne un an pour voir si déjà, en fait, rien que le mode de vie, le mode de travail, parce que c'est pas un métier d'être freelance, c'est vraiment un mode de travail particulier, si déjà ce mode de travail là il me plaît. Au-delà de gagner ma vie, de travailler sur des missions clients, etc., est-ce que personnellement je m'épanouis, j'y trouve des choses intéressantes pour moi? Bah, en fait, tu vois, j'aurais pu me dire à la fin de l'année, en fait, ça me plaît pas, j'aime pas travailler seul, etc. Mais est-ce que je l'aurais vu comme un échec? Non, parce que pendant un an, j'aurais appris plein de choses, j'aurais gagné ma vie tout seul, et donc, en fait, ça te donne aussi une confiance en toi qui est dingue. Et donc, je trouve que même dans les échecs, etc., c'est un peu bateau, et on l'entend souvent, mais moi, j'y crois profondément, et j'ai fait plein de projets qui ont jamais mené à quelque chose de génial. Et pourtant, sans ces projets-là, sans les erreurs que j'ai pu faire, tu vois, moi, il y a 5 ans, tu m'aurais parlé, j'étais en costume cravate à la Défense, dans un cabinet de conseil. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et pourtant, tu vois, je prends pas ça comme un échec, parce que ce que je suis aujourd'hui, bah, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans le passé, qui n'ont pas forcément de lien direct avec la partie freelance, en fait, elles ont, elles m'ont permis de me forger une personnalité, une maturité, une approche business, etc. Donc cette question de faire le mauvais choix, elle est souvent liée à suivre un environnement extérieur plutôt qu'à un sentiment personnel de dire est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas.
Ouais, je suis d'accord. Et puis alors, pour le coup, moi, je suis la preuve par l'exemple que c'est pas en soi nécessairement un échec. Moi, tu vois, j'ai jamais été freelance. Moi, j'ai monté des sites internet, mais j'ai passé les 10 dernières années, je pense, j'ai jamais fait le compte, mais ça doit grosso modo être ça, à passer du salariat à l'entrepreneuriat et à repartir au salariat et à revenir à l'entrepreneuriat. C'est, en fait, il y a pas de... Pour moi, c'est pas un bon choix ou un mauvais choix. Il y a pas. Alors d'abord, il y a pas de. Dès lors qu'il y a un choix, il peut y avoir une bonne solution, enfin quelque chose de favorable ou de défavorable. Donc ça fait, c'est inhérent au fait de faire un choix. Déjà première chose. Et puis surtout, si ça fonctionne pas, rien n'empêche de revenir au salariat. Enfin, c'est pas un choix. Ça n'a rien de définitif.
Exactement.
Donc le fait de se dire oh là là, est-ce que je fais bien de me lancer? C'est super risqué. Je vais foutre en l'air ma carrière? Absolument pas. D'une part, non, heureusement, on ne fout pas en l'air sa carrière parce que on a changé d'avis. On a le droit de changer d'avis. Et puis alors, moi, je vais même plus loin, c'est-à-dire que quand on m'a proposé, parce que moi c'est encore autre chose, si tu veux, je revenais à chaque fois au salariat parce que je pense que j'avais, on faisait de trop belles propositions en salariat. Donc c'est assez des problèmes de riches, hein.
Mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle.
C'est bien, exactement, c'est très très bien. Mais du coup, ça ne m'empêchait pas, mais je m'empêchais d'aller au bout de mes projets entrepreneuriaux parce que je me disais oh là là, quand même, t'as une belle boîte qui te propose un poste en CDI, il faudrait vraiment être fou pour refuser, c'est vraiment chouette, etc. Mais tout ça pour dire que c'était mes expériences en tant qu'entrepreneur qui étaient des expériences où je montais moi mon site internet pour moi parce que voilà, c'était une façon de travailler, comme tu dis, qui me convenait mieux. Et bien, ça avait un attrait énorme pour bien des sûr. Grosses boîtes. Des grosses ou des petites boîtes, d'ailleurs. C'est même pas la question de la taille de la boîte. Donc, en soi, fondamentalement, c'est pas du tout déjà un aller simple, nécessairement. Ça peut être un aller simple, bien sûr, mais il n'y a pas de barrière qui se lève dès lors qu'on a passé la frontière de l'indépendance. Et puis surtout, ça peut être au contraire, et c'est souvent le cas, c'est très, très, très apprécié parce que bah, les gens qui se lancent en tant qu'indépendants sont des gens qui sont débrouillards, qui trouvent des solutions, qui vont de l'avant, etc. Et il y a plein, plein de qualités qui sont derrière tout ça. On n'y pense pas toujours quand on est dans ces réflexions-là, parce qu'on, comme tu dis, il y a plein de peurs qui viennent avec le fait de se lancer. Mais en fait, quand on pense à ces peurs, on ne voit pas tous les attraits positifs qu'il y a derrière. Et pour des recruteurs, alors pour certains recruteurs, c'est pas forcément tous les recruteurs et tous les types de postes, certainement, hein, je suis pas RH, mais il y a énormément d'attraits à aller chercher quelqu'un qui a eu ce cran d'aller se positionner dans l'entrepreneuriat. Donc,
c'est évident.
Allez-y. Ouais, il y a vraiment des choses intéressantes à aller voir derrière ces peurs-là et de se planter encore une fois, c'est rarement complètement un échec. Super, super. Il y a une quatrième peur que je trouve extrêmement intéressante. Tu m'en parlais un petit peu en off juste avant qu'on enregistre. C'est la peur de pas avoir assez d'expérience. Tu disais, moi, quand je me suis lancée, combien de temps tu disais, tu avais d'expérience? 4-5 ans, quelque chose comme ça?
Même pas.
Ouais. Ouais, même pas. Ça, c'est quelque chose du coup que tu ressentais en te disant, là, ils vont jamais me faire confiance. Ou c'était quoi l'histoire derrière?
Mais oui, parce que tu vois, moi, en gros, j'ai fait une école de commerce. J'avais deux expériences en start-up, donc des start-up très tech, très B2B, donc ce qui a façonné le positionnement que j'ai aujourd'hui côté freelance. Mais j'avais moins de 3 ans d'expérience en fait.
Wow.
J'avais moins de 3 ans d'expérience que j'ai commencé vraiment à facturer des missions qui étaient vraiment intéressantes. Et en fait, j'avais deux choix, tu vois. J'aurais pu me dire, maintenant, en fait, je vais attendre encore quelques années, je vais me perfectionner, je vais peut-être prendre un rôle de manager, je vais pouvoir, tu vois, je vais gagner en expérience dans le milieu du salariat, dans les clients types que je voulais avoir, de tester, etc. Le problème, c'est que, en fait, j'aurais pu attendre encore une fois des années. C'est un petit peu comme les gens qui te disent, je sais pas si tu en as eu dans ton entourage, mais moi j'en ai beaucoup qui me disent, mais non, mais en fait je vais faire ça 3-4 ans, ça me plaît pas tant que ça, mais là je sens que je commence à apprendre des choses et tout, et je sais que dans 3-4 ans, je vais pouvoir faire un effet de levier, et puis je vais aller sur telle et telle mission, je vais peut-être pouvoir changer de boîte pour aller là-dessus, etc. La réalité, c'est que déjà, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'es incapable de prévoir ce qui va se passer et toutes les opportunités que tu vas avoir entre maintenant et dans 4 ans, Et donc, en fait, dans 4 ans, tes objectifs, ce que tu as envie de faire changera probablement. Et encore une fois, en fait, tu seras jamais prêt. Tu seras jamais prêt et tu auras toujours le sentiment d'avoir quelque chose en plus à apprendre avant vraiment de te lancer, etc. En psychologie sociale, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler, mais c'est un peu l'histoire des montagnes russes, quoi. C'est un peu les montagnes russes de la connaissance. C'est-à-dire que quand tu commences à t'intéresser, par exemple, à un sujet, si on prend par exemple le marketing, tu commences à t'intéresser au marketing, tu commences à regarder un petit peu, aller un petit peu dans les détails de ce qui fait un bon marketing, de comment est-ce que tu lances un produit, etc. Et donc, rapidement, tu vois, t'as l'impression d'en maîtriser un peu les grands fondamentaux, les grandes bases et te dire, je me sens plutôt confiant, je vais pouvoir me lancer. Et si t'attends encore un petit peu, en fait, tu commences à comprendre que n'importe quelle thématique, si je reprends le marketing, c'est un puits sans fond dans lequel il y a énormément de choses à apprendre, il y a énormément de choses à maîtriser. Et donc, en fait, là où t'étais en termes de niveau de confiance au plus haut parce que tu commençais à maîtriser les bases et donc t'avais l'impression de maîtriser ce qu'était vraiment le marketing, et au fur et à mesure de ton apprentissage, tu te rends compte qu'il y a encore plein de choses, que c'est infini, etc. Et donc, ton niveau de confiance diminue parce que tu te dis, ouais, mais en fait, je dois encore apprendre 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans pour être vraiment un as du marketing. Et là, en fait, c'est presque, je dirais pas que c'est trop tard, mais c'est encore plus difficile de te lancer parce que t'as moins ce capital confiance que tu peux avoir quand tu démarres. Donc, je dirais presque le fait de pas avoir un gros niveau d'expérience, bien sûr de maîtriser les fondamentaux, mais de pas être non plus un expert dans une thématique extrêmement précise, extrêmement nichée, c'est ok pour se lancer. En fait, encore une fois, il te faut 3-4 clients pour un peu lancer la machine, et il te suffit pas d'avoir des, tu vois, tes clients, tes premiers clients sont juste des clients qui ont moins d'expérience que toi sur le sujet, la problématique que tu vas adresser. Et donc, encore une fois, 3 clients à l'échelle d'un pays comme la France, je veux dire, c'est pas insurmontable, c'est possible.
C'est ultra intéressant ce que tu dis là, parce que effectivement, ça montre bien qu'il n'y a pas besoin d'être expert ou d'attendre. On a souvent envie d'attendre d'être expert pour pouvoir se lancer. Et en fait, non, il n'y a pas besoin d'être expert. Et au contraire, limite, plus tu vas rentrer dans ton expertise, plus tu vas te rendre compte que tu es loin d'être expert, et surtout qu'il y aura toujours d'autres personnes qui vont être plus expertes que toi. Et tu te remets toujours au niveau de ceux qui sont juste au-dessus de toi. Donc, quoi qu'il arrive, tu oublies qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas ton niveau d'expertise. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont 10, 15, 20%, enfin, je ne sais pas si on peut le mettre en pourcentage, mais qui sont un petit peu moins experts que moi, ou qui n'ont pas le temps de le faire, hein, ne serait-ce que ça, tout simplement. Est-ce que ces personnes-là, je ne peux pas leur proposer mes services. Et effectivement, quand on commence à regarder les choses comme ça, on n'a plus cette question-là de est-ce que j'ai suffisamment d'expérience. Tu retournes la chose, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un peu moins d'expérience que moi. Donc c'est un peu plus facile à regarder, je pense.
L'expertise, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire quelqu'un d'expert, ça ne veut rien dire expert par rapport à quoi. Effectivement, certains seront experts par rapport à des débutants, mais seront des débutants par rapport à des gens qui ont 15 ans de carrière. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal quand on s'autoproclame expert sur un sujet. Tu vois, parfois on me dit mais t'es presque un expert sur le podcasting, mais en fait non, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. C'est juste qu'effectivement, par rapport à d'autres, des débutants qui sont en train de se lancer, oui, j'ai plus d'expérience, mais en fait, c'est encore une fois, c'est juste un niveau d'expérience. L'expertise est vraiment quelque chose d'extrêmement subjectif.
Ouais, alors moi, je le prendrais exactement dans l'autre sens. Et moi, je pense qu'il faut assez rapidement s'autoproclamer expert en se disant j'en connais
ça marche
plus
comme
que
ça aussi.
Plein de gens, finalement.
Effectivement.
Super, super. Alors dis-moi, on a parlé de ces différentes peurs. Assez rapidement, je vais te demander de le faire assez rapidement parce que le temps est passé, évidemment, comme d'habitude, beaucoup plus vite que ce que j'imagine. Mais c'est très bien, c'est parce que c'est super intéressant. Il y a des solutions quand même à ces peurs-là, parce que c'est bien joli de se dire on a des peurs, mais bon, à un moment donné, faut trouver un moyen de passer outre ces peurs. Tu m'as parlé de 3 solutions. La première, c'était d'anticiper l'échec.
Effectivement. En fait, moi, je me suis dit, ok, plutôt que de rester avec ces peurs-là, comment est-ce que je peux trouver un moyen de justement de les affronter et de passer outre pour pouvoir me lancer. Et je me suis inspiré d'un talk de Tim Ferriss, qui est un auteur qui aujourd'hui est presque plus à présenter, notamment grâce à son livre La semaine de 4 heures. Et en fait, je me suis réapproprié un certain nombre d'exercices qui partageait, et pour en faire un peu ce que moi j'ai appelé le pire scénario de ma vie. Et c'est effectivement 3 étapes. La première étape, c'est d'anticiper l'échec. Concrètement, d'anticiper quels sont un peu les scénarios d'échec possibles et comment est-ce que je vais pouvoir à la fois les prévenir et potentiellement les réparer. Étape 2, c'est de visualiser mes réussites. Globalement, si je réussis par exemple mon aventure en freelance, si j'arrive à me lancer et que j'atteins mes objectifs, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? quels sont en gros les bénéfices qui vont arriver. Et puis l'étape 3, c'est de se dire, si jamais je fais rien et que je reste dans la situation actuelle, donc par exemple je reste dans mon job de salarié, en gros, si j'arrive à me projeter à 6 mois, 1 an, 2 ans, concrètement à quoi ressemblera ma vie ? Et en fait, ce travail-là me permet d'évaluer en fait le coût de l'inaction. Si je change rien, est-ce que les choses vont vraiment changer dans ma vie ? Et donc, tu vois, si on reprend l'étape 1, effectivement, ce que je partage dans le livre, c'est une sorte de matrice que j'ai appelée la matrice DPR pour définir, prévenir, réparer. Et donc, en fait, on fait 3 colonnes sur une feuille ou sur un tableau Excel avec une colonne définir, une colonne prévenir et une colonne réparer. Dans la colonne définir, c'est globalement, c'est d'anticiper et de définir tous les échecs possibles. Donc, par exemple, tu vois, si on reprend la troisième peur dont on parlait, c'est j'arriverai pas à signer mes premiers clients. Donc là, tu définis ton échec. Pour prévenir cet échec-là, globalement, qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de prévenir le fait que tu n'arrives pas à signer ses premiers clients ? Par exemple, je sais pas, tu vas travailler peut-être sur des tout petits projets au démarrage ou même sur des projets stratégiques gratuits qui vont te permettre potentiellement d'augmenter ta jauge de crédibilité, d'être visible parce que tu vas travailler sur des missions qui ont une portée virale, une visibilité sur le réseau, peu importe. Ou je vais utiliser mon réseau pour décrocher des petites missions. Ça, c'est la partie prévenir. Donc, je préviens le fait que cet échec-là, il peut arriver. Et réparer, c'est si jamais, malgré le fait que j'ai mis tout en place pour anticiper cet échec-là, j'arrive pas à trouver de clients, qu'est-ce que je fais ? Globalement, très simple, c'est que je commencerai à postuler à de nouvelles offres d'emploi, j'essaierai de retrouver un CDI, le temps de me répréparer. Et encore une fois, c'est pas un aller simple en fait. Quel que soit ton parcours pro, te lancer en freelance, c'est pas un aller simple où tu te dis, ok, maintenant que je suis freelance, je peux plus jamais revenir dans le monde du
salariat. C'est ça, c'est ce que je disais. Terminé.
Et donc, en fait, ça, tu vois, le fait d'avoir fait ce travail-là pour un certain nombre de peurs, donc parfois, ça fait des tableaux qui sont très, très longs parce qu'on a beaucoup, beaucoup de peurs et on anticipe beaucoup d'échecs. Je trouve que ça a un côté où, si tu veux, ça démystifie un peu ça et on se dit, ok, mais en fait, finalement, il y aura toujours un plan B, quoi. Il y aura toujours un plan B, j'arriverai toujours à retomber sur mes pas d'une manière ou d'une autre. Et le fait de l'avoir écrit, de l'avoir documenté, si tu veux, il y a quelque chose de très palpable sur lequel tu peux revenir quand tu es en train de douter.
Ouais, ça permet de rationaliser la peur et du coup, tu peux la dompter plus facilement. Dès lors qu'elle est écrite, tu sais à quoi t'as affaire et t'es pas complètement dans l'inconnu. Donc évidemment, ça rend les choses plus simples. Il y avait un élément dont tu parlais que moi je trouve absolument... T'as parlé de visualiser les réussites, mais t'as aussi parlé d'évaluer le coût de l'inaction. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Parce que moi, je trouve que ça, c'est un élément vraiment assez fondateur pour se permettre d'avancer finalement.
Ouais, effectivement, ça c'est un très très bon exercice qui est un exercice qui est pas facile, à la fois pas facile de travailler sur cet exercice là mais pas facile aussi de se rendre compte en fait de ce coût de l'inaction. Et l'idée c'est de prendre 6 mois, 1 an et 3 ans ou 6 mois, 1 an et 2 ans, ça dépend, et de se dire ok, si rien ne change aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à la fois dans notre vie pro, perso, sur notre état de santé physique, mental, sur nos relations, etc. Et donc, il y a différentes questions dont je parle. Donc, par exemple, où est-ce qu'on se situe géographiquement ? Est-ce qu'on travaille toujours dans la même entreprise ? Est-ce qu'on a évolué ou pas ? Comment est-ce qu'on se sent ? Est-ce qu'on est content de se lever le matin ? Est-ce qu'on est satisfait de l'orientation qu'on est en train de donner à sa vie professionnelle et personnelle? Est-ce qu'il y a toujours des choses qui bloquent par rapport à aujourd'hui? Tu vois, est-ce que dans un an, tu penses avoir résolu, je sais pas, si par exemple t'as un problème avec ton manager, est-ce que tu penses avoir résolu ce problème-là? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Est-ce que tu te sentiras dans un an potentiellement toujours frustré de pas être passé à l'action? Quoi, je sais pas, tu vois d'autres copains qui sont lancés en freelance. Qu'est-ce que t'as accompli aussi de nouveau? Est-ce qu'en fait, peut-être que, tu vois, est-ce que tu auras, par exemple, si t'es salarié et que t'as envie de monter, je sais pas, un projet, un podcast, un blog ou je sais pas, créer une expo photo, est-ce que t'auras eu le temps de le faire? Est-ce que tu penses être capable de donner du temps sur 6 mois, 1 an pour le faire? Est-ce que t'es satisfait de tout ça? Et en fait, une fois que t'as fait cet exercice-là, tu te rends compte que il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus sur le fait que tu passes vraiment à l'action, que tu mènes certains projets et qu'entre ce coût potentiel de l'inaction de ne rien faire et en fait d'avoir vu le temps passer 6 mois, 1 an et d'être toujours dans la même situation et de n'avoir rien fait pour que ça change versus les réussites que tu as pu visualiser sur ton étape numéro 2. Et en fait, le ratio, il est, moi, il n'y avait pas photo, c'est-à-dire que j'avais plus à perdre à ne rien faire plutôt qu'à tester et potentiellement me planter pour rebasculer sur autre chose. Mais il y avait trop d'opportunités, il y avait trop de belles choses potentielles que j'avais potentiellement envisagées, prédites dans mes succès, dans mes bénéfices, en me lançant en freelance plutôt qu'en restant dans une situation qui ne me convenait pas à l'heure actuelle.
Non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, quand on a peur de se lancer dans l'entrepreneuriat ou autre chose, hein, finalement, mais quand on a peur de se lancer, on pense à sa peur, on pense au risque qu'on a à se lancer, on ne pense pas nécessairement au risque qu'on a à ne pas se lancer. Parce que bah, c'est exactement ce que tu dis, le fait de ne pas se lancer, ça veut dire que tu vas perdre d'autres choses. Il y a des événements, des choses que tu ne vas pas vivre, et ça, c'est un risque aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le voir, et je trouve ça assez éclairant que de regarder la chose comme ça, et du coup, ta peur se met en balance d'une autre peur, qui est la peur de pas bouger et de rester dans quelque chose qui ne te convient pas nécessairement absolument. Et à un moment donné, bah, il faut faire un choix. Donc, de tous les côtés, il y aura certainement une petite peur, mais de tous les côtés, il y a des opportunités. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Écoute, Alexis, merci beaucoup vraiment d'être venu sur le podcast du marketing. Je pense que tu nous as donné plein de clés pour pouvoir avancer, et je trouve que c'est un élément extrêmement important et évidemment fondateur que de savoir passer à l'action et de savoir regarder cette action avec un petit peu de recul. Donc merci beaucoup, je suis assez persuadée que ça peut aider et faire réfléchir pas mal de monde. Je ferai comme à mon habitude, si tu me le permets, Alexis, je ferai un petit résumé de notre discussion, d'autant qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Ça permet souvent, moi, à mes auditeurs de se reposer un peu concrètement dessus. Est-ce que tu peux nous dire, bien sûr, j'invite tout le monde et tous les auditeurs et les auditrices à aller commander ton bouquin qui vient de sortir, dans lequel tu donnes tous ces éléments-là et bien d'autres. Est-ce que tu peux nous dire, pour toutes les personnes qui ne te suivaient pas jusqu'à maintenant et qui souhaiteraient le faire, où est-ce qu'elles peuvent te trouver ?
Eh bien, toutes les infos de tout ce que je fais sont sur tribuandé.com, à la fois le podcast qui a presque 60 épisodes aujourd'hui, il y a la newsletter du podcast qui va beaucoup plus loin, qui partage aussi des concepts un peu clés pour notre aventure en freelance. Et puis, il y a bien sûr le livre, toutes les infos sur la thèse du livre, le sommaire et puis des bonus aussi pour tous les acheteurs du livre qu'on retrouve pas ailleurs, donc tout est sur tribuindé.com. Et si les auditeurs et auditrices veulent me contacter, je suis maintenant sur Instagram, donc tribuindé, ou alors sur LinkedIn, et là c'est mon prénom nom, donc Alexis Minkela. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller creuser un peu plus le sujet.
Eh ben génial, merci beaucoup Alexis, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing, et puis je te souhaite plein de bonnes choses avec tribuindé bien sûr, et avec ce livre qui vient de paraître. À très très bientôt Alexis.
Merci beaucoup, à très bientôt Estelle.
S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'on est nombreuses et nombreux à se retrouver dans les peurs qu'Alexis vient de nous décrire. C'est pas toujours facile d'en parler, c'est pour cette raison que je tenais absolument à aborder ce sujet avec Alexis. Il y avait beaucoup à dire, et encore croyez-moi, on s'est autant censuré avec Alexis pour ne pas faire trop long, mais c'est vrai que cet épisode est un peu plus costaud que ceux que j'ai l'habitude de vous proposer. Pour que vous puissiez vous poser tranquillement sur tous les conseils qu'Alexis nous a partagés, je vous ai préparé un résumé à télécharger sur le podcast dumarketing.com/cadeau57. Je ne peux évidemment que vous conseiller de lire le livre d'Alexis. Je mettrai bien sûr le lien sur les notes de l'épisode, mais vous le trouverez de toute façon sans problème chez tous les bons libraires. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que cette discussion vous aura plu. En tout cas, je peux vous avouer qu'à moi, il m'a plu, parce que, comme tout le monde, certaines de ces peurs sont parfois les miennes, donc je sais que je reviendrai sur cet épisode la prochaine fois que je ne me sens pas tout à fait à ma place en tant qu'indépendante. Je vous dis à très vite.